Très chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de l'Église sur votre radio chrétienne. Nous débutons cette émission en découvrant la personne de Saint-Hilaire de Poitiers. Et c'est un grand-père de l'Église d'Occident que nous évoquons maintenant, Saint-Hilaire de Poitiers, l'une des grandes figures d'évêques qui ont marqué le IVe siècle. Au cours de la confrontation avec les Ariens, qui considéraient le Fils de Dieu, Jésus, comme une créature, certes éminente, mais toutefois uniquement comme une créature, Hilaire a consacré toute sa vie à la défense de la foi dans la divinité de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et Dieu comme le Père, qu'il a engendré de toute éternité. Nous ne disposons pas d'informations certaines sur la plus grande partie de la vie d'Hilaire. Les sources antiques disent qu'il est né à Poitiers, probablement vers l'année 310. Issu d'une famille aisée, il reçut une solide formation littéraire bien évidente dans ses écrits. Il ne semble pas qu'il ait grandi dans un milieu chrétien. Lui-même nous parle d'un chemin de recherche de la vérité qui le conduisit peu à peu à la reconnaissance de Dieu créateur et du Dieu incarné, mort pour nous donner la vie éternelle. Baptisé vers l'an 345, il fut élu évêque de sa ville natale entre 353 et 354. Au cours des années suivantes, Hilaire écrivit sa première œuvre, le commentaire de l'évangile de Matthieu. Il s'agit du plus ancien commentaire en langue latine qui nous soit parvenu de cet évangile. En l'an 356, Hilaire assiste comme évêque au synode de Béziers dans le sud de la France. Le synode des faux apôtres, comme il l'appelle lui-même, car la réunion fut dominée par des évêques philo-ariens, des évêques qui niaient la divinité de Jésus-Christ. Ces faux apôtres demandèrent à l'empereur Constance la condamnation à l'exil de l'évêque de Poitiers. Hilaire fut ainsi obligé de quitter la Gaule au cours de l'été 356. Exilé en Phrygie, dans l'actuelle Turquie, Hilaire se trouva au contact d'un milieu religieux totalement dominé par l'arianisme. Là aussi, sa sollicitude de pasteur le poussa à travailler sans relâche pour le rétablissement de l'unité de l'Église sur la base de la juste foi formulée par le Concile de Nicée. C'est dans ce but qu'il commença la rédaction de son œuvre dogmatique la plus importante et la plus connue sur la Trinité. Dans celle-ci, Hilaire expose son chemin personnel vers la connaissance de Dieu et se préoccupe de montrer que l'Écriture atteste clairement la divinité du Fils et son égalité avec le Père, non seulement dans le Nouveau Testament, mais également dans un grand nombre de pages de l'Ancien Testament, dans lequel apparaît déjà le mystère du Christ. Face aux Ariens, il insiste sur la vérité des noms de Père et de Fils, et développe toute sa théologie trinitaire à partir de la formule du baptême qui nous a été donnée par le Seigneur lui-même, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont de la même nature. Et si certains passages du Nouveau Testament pourraient faire penser que le Fils est inférieur au Père, Hilaire offre des règles précises pour éviter des interprétations erronées. Certains textes de l'Écriture parlent de Jésus comme de Dieu, d'autres mettent en revanche en évidence son humanité. Certains se réfèrent à lui dans sa préexistence auprès du Père, d'autres prennent en considération l'état d'abaissement, sa descente jusqu'à la mort, d'autres enfin le contemplent dans la gloire de la résurrection. Au cours des années de son exil, il écrivit également le livre des synodes dans lequel il reproduit et commente pour ses confrères évêques de Gaule les confessions de foi et d'autres documents des synodes réunis en Orient autour de la moitié du IVe siècle. Toujours ferme dans son opposition aux Ariens radicaux, Saint-Hilaire montre un esprit conciliant à l'égard de ceux qui acceptaient de confesser que le Fils était ressemblant au Père dans son essence. Naturellement, en cherchant à les conduire vers la plénitude de la foi de Nicée, selon laquelle il n'y a pas seulement une ressemblance, mais une véritable égalité du Père et du Fils dans la divinité. Cela aussi semble caractéristique. L'esprit de conciliation qui cherche à comprendre ceux qui n'y sont pas encore arrivés et qui les aide, avec une grande intelligence théologique, à parvenir à la plénitude de la foi dans la divinité véritable du Seigneur Jésus-Christ. En l'an 360 ou bien 361, Hilaire put finalement revenir dans sa patrie après son exil et il reprit immédiatement l'activité pastorale dans son église, mais l'influence de son magistère s'étendit de fait bien au-delà des frontières de celle-ci. Un synode tenu à Paris en 360 ou en 361 reprend le langage du concile de Nicée. Certains auteurs antiques pensent que ce tournant anti-arien de l'épiscopat de la Gaule a été en grande partie dû à la fermeté de l'évêque de Poitiers. Tel était précisément son don, conjuguer la fermeté dans la foi et la douceur dans les relations interpersonnelles. Au cours des dernières années de sa vie, il rédigea encore les traités sur les psaumes. Un commentaire de 58 psaumes interprétés selon le principe souligné dans l'introduction de l'œuvre. Il ne fait aucun doute que toutes les choses qui se disent dans les psaumes doivent être comprises selon l'annonce évangélique, de façon à ce que, quelle que soit la voix avec laquelle l'esprit prophétique a parlé, tout soit cependant rattaché à la connaissance de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, incarnation, passion et royaume, et à la gloire et puissance de notre résurrection. Il voit dans tous les psaumes cette compréhension du mystère du Christ et de son corps qui est l'Église. En diverses occasions, Hilaire rencontra saint Martin, précisément près de Poitiers. Le futur évêque de Tours fonda un monastère qui existe encore aujourd'hui. Hilaire mourut en 367. Sa mémoire liturgique est célébrée le 13 janvier, et en 1851, le bienheureux Pie IX le proclama docteur de l'Église. Pour résumer l'essentiel de sa doctrine, Hilaire trouve le point de départ de sa réflexion théologique dans la foi baptismale. Il écrit notamment « Jésus a commandé de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans la confession de l'auteur du Fils unique et du don. Il n'y a qu'un seul auteur de toutes les choses, car Dieu le Père est un seul dont tout procède et notre Seigneur Jésus-Christ est un seul à travers lequel tout fut fait. Et l'Esprit est un seul, don en tous. En rien on ne pourra trouver qu'il manque quelque chose à une plénitude aussi grande, dans laquelle converge dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit l'immensité de l'Éternel, la révélation dans l'image, la joie dans le don. Dieu le Père, étant entièrement amour, est capable de communiquer en plénitude sa divinité au Fils. » Benoît XVI trouve particulièrement belle la formule suivante de saint Hilaire : « Dieu ne sait rien être d'autre qu'amour, il ne sait rien être d'autre que le Père, et celui qui l'aime n'est pas envieux, et celui qui est le Père l'est dans sa totalité. Ce nom n'admet pas de compromis, comme si Dieu pouvait être le Père sur certains aspects, mais ne l'était pas sur d'autres. » C'est pourquoi le Fils est pleinement Dieu, sans aucun manque ni diminution. Celui qui vient de la perfection est parfait, car celui qui a tout lui a tout donné. Ce n'est que dans le Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, que l'humanité trouve son salut. En assumant la nature humaine, il a uni chaque homme à lui. Il s'est fait notre chair à tous, il a assumé en lui la nature de toute chair, et au moyen de celle-ci, il est devenu la vraie vie. Il possède en lui les racines de chaque sarment. C'est précisément pour cette raison que le chemin vers le Christ est ouvert à tous, car il a attiré chacun dans sa nature d'homme, même si la conversion personnelle est toujours demandée. À travers la relation avec sa chair, l'accès au Christ est ouvert à tous, à condition qu'ils se dépouillent du vieil homme et qu'ils le clouent sur la croix, à condition qu'ils abandonnent les œuvres de jadis et qu'ils se convertissent pour être ensevelis avec lui dans son baptême, en vue de la vie. La fidélité à Dieu est un don de sa grâce. C'est pourquoi saint Hilaire demande à la fin de son traité sur la Trinité de pouvoir rester toujours fidèle à la foi du baptême. Et c'est une caractéristique de ce livre, la réflexion se transforme en prière et la prière redevient réflexion. Tout le livre est un dialogue avec Dieu. Et pour conclure cette catéchèse, Benoît XVI voudrait faire l'une de ces prières qui devient ainsi également notre prière. Fais au Seigneur, récite saint Hilaire de manière inspirée, fais au Seigneur que je reste toujours fidèle à ce que j'ai professé dans le symbole de ma régénération, lorsque j'ai été baptisé dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Fais que je t'adore, notre Père, et en même temps que toi, que j'adore ton Fils. Fais que je mérite ton Esprit Saint, qui procède de toi à travers ton Fils unique. Amen. Merci, chers auditeurs, d'être à notre écoute. L'émission Histoire de l'Église continue, toujours sur votre radio chrétienne, bien entendu, et dans cette seconde partie d'émission, nous nous intéressons désormais à saint Eusèbe de Verceil. Saint Eusèbe de Verceil, qui est le premier évêque de l'Italie du Nord sur lequel nous ayons des données certaines. Il est né en Sardaigne au début du IVe siècle. Sa famille se transféra à Rome alors qu'il était en bas âge. Plus tard, il fut institué lecteur. Il entra ainsi au sein du clergé à une époque où l'Église était gravement éprouvée par l'hérésie arienne. La grande estime qui se développa autour d'Eusèbe explique son élection en 345 à la chaire épiscopale de Verceil. Le nouvel évêque commença immédiatement une intense œuvre d'évangélisation sur un territoire encore en grande partie païen, en particulier dans les zones rurales. Inspiré par Athanase, qui avait écrit la vie de saint Antoine, il fonda à Verceil une communauté semblable à une communauté monastique. Ce monastère donna au clergé de l'Italie du Nord une empreinte de sainteté apostolique significative. Et cela suscita des figures importantes d'évêques, il y en a plusieurs bien sûr. Alors, solidement formé dans la foi nicéenne, Eusèbe défendit de toutes ses forces la pleine divinité de Jésus-Christ définie par le credo de Nicée, de la même substance que le Père. Dans ce but, il s'allia avec les grands pères du IVe siècle, surtout avec saint Athanase, le porte-drapeau de l'orthodoxie nicéenne, contre la politique philo-arienne de l'empereur. Pour l'empereur, la foi arienne, plus simple, apparaissait politiquement plus utile comme idéologie de l'empire. Pour lui, ne comptait pas la vérité, mais l'opportunité politique. Il voulait instrumentaliser la religion comme lien d'unité de l'empire. Mais ses grands pères résistèrent en défendant la vérité contre la domination de la politique. C'est pour cette raison que Eusèbe fut condamné à l'exil comme tant d'autres évêques d'Orient et d'Occident, comme Athanase lui-même, comme Hilaire de Poitiers, dont nous avons parlé précédemment. En Palestine, où il fut assigné entre 355 et 360, Eusèbe écrivit une page merveilleuse de sa vie. Là aussi, il fonda un monastère avec un petit groupe de disciples et de ce lieu, il s'occupa de la correspondance avec ses fidèles du Piémont, comme le démontre en particulier la deuxième des trois lettres eusébiennes reconnues comme authentiques. Par la suite, après 360, il fut exilé en Cappadoce et dans la Thébaïde, où il subit de graves mauvais traitements physiques. En 361, Constance II mourut, et lui succéda l'empereur Julien, qui ne s'intéressait pas au christianisme comme religion de l'Empire, mais voulait simplement restaurer le paganisme. Il mit fin à l'exil de ses évêques et permit à Eusèbe de reprendre possession de son siège. En 362, il fut envoyé par Athanase pour participer au concile d'Alexandrie qui décida de pardonner les évêques ariens s'ils retournaient à l'état de laïc. Eusèbe put encore exercer le ministère épiscopal pendant une dizaine d'années jusqu'à sa mort, entretenant avec sa ville une relation exemplaire qui ne manqua pas d'inspirer le service pastoral d'autres évêques de l'Italie du Nord, dont nous nous occuperons dans les prochaines émissions, comme saint Ambroise de Milan et saint Maxime de Turin. La relation entre l'évêque de Verceil et sa ville est en particulier éclairée par deux témoignages épistolaires. Le premier se trouve dans la lettre déjà citée que Zeb écrivit de son exil à mes bien-aimés frères et aux prêtres tant désirés, ainsi qu'au saint peuple solide dans leur foi de Verceil, Novare, Ivrée et Tortone. Ces expressions initiales, qui marquent l'émotion du bon pasteur face à son troupeau, trouvent un large écho à la fin de la lettre, dans les saluts très chaleureux du Père à tous et à chacun de ses enfants de Verceil à travers des expressions débordantes d'affection et d'amour. Il faut tout d'abord noter le rapport explicite qui lie l'évêque, non seulement de Verceil, le premier et pendant quelques années encore l'unique diocèse du Piémont, mais également de Novare, Eporedia, Ivrée et d'Ertona, Tortone, c'est-à-dire de ces communautés chrétiennes qui, au sein du diocèse lui-même, avaient trouvé une certaine consistance et une certaine autonomie. Un autre élément intéressant est fourni par le salut avec lequel se conclut la lettre. Eusèbe demande à ses fils et à ses filles de saluer également ceux qui sont en dehors de l'Église et qui daignent nourrir pour nous des sentiments d'amour. Signe évident que la relation de l'évêque avec sa ville ne se limitait pas à la population chrétienne, mais s'étendait également à ceux qui, en dehors de l'Église, en reconnaissent d'une certaine manière l'autorité spirituelle et aimaient cet homme exemplaire. Le deuxième témoignage du rapport singulier de l'évêque avec sa ville provient de la lettre que saint Ambroise de Milan écrivit aux habitants de Verceil autour de 394, plus de 20 ans après la mort de Zèbe. L'église de Verceil traversait un moment difficile. Elle était divisée, elle était sans pasteur. Ambroise déclare avec franchise qu'il hésite à reconnaître chez ses habitants la descendance des saints-pères qui approuvèrent Eusèbe. À peine l'eurent-ils vu, sans jamais l'avoir connu auparavant, oubliant même leurs propres concitoyens. Dans la même lettre, l'évêque de Milan témoigne de la manière la plus claire son estime à l'égard d'Eusèbe. Un homme aussi grand, écrit-il de manière péremptoire, mérita bien d'être élu par toute l'Église. L'admiration d'Ambroise pour Eusèbe se fondait surtout sur le fait que l'évêque de Verceil gouvernait son diocèse à travers le témoignage de sa vie. Avec l'austérité du jeûne, il gouvernait son Église. De fait, Ambroise était fasciné, comme il le reconnaît lui-même, par l'idéal monastique de la contemplation de Dieu que Zeb avait poursuivi sur les traces du prophète Élie. Tout d'abord, l'évêque de Verceil rassembla son propre clergé en vita communis et l'éduqua à l'observance des règles monastiques, bien que vivant dans la ville. L'évêque et son clergé devaient partager les problèmes de leurs concitoyens et ils l'ont fait de manière crédible, précisément en cultivant dans le même temps une citoyenneté différente, celle du ciel, et ainsi ils ont réellement construit une véritable citoyenneté, une véritable solidarité, comme entre les citoyens de Verceil. Ainsi Eusèbe, alors qu'il faisait sienne la cause de la Sancta Plebs de Verceil, vivait au sein de la ville comme un moine ouvrant la ville vers Dieu. Cette caractéristique n'ôta donc rien à son dynamisme pastoral exemplaire. Il semble d'ailleurs qu'il ait institué à Versailles des paroisses pour un service ecclésial ordonné et stable, et qu'il ait promu des sanctuaires mariaux pour la conversion des populations rurales païennes. Ce caractère monastique conférait plutôt une dimension particulière à la relation de l'évêque avec sa ville. Benoît XVI nous recommande de tout cœur ses valeurs éternelles. Et nous terminons cette émission en entendant quelques paroles d'Eusèbe qui concluait sa deuxième lettre. Je m'adresse à vous tous, mes frères et mes sœurs, fils et filles, fidèles des deux sexes et de tout âge, afin que vous vouliez bien apporter notre salut également à ceux qui sont en dehors de l'Église et qui daignent nourrir à notre égard des sentiments d'amour. Très chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autres pères de l'Église, notamment Saint Ambroise. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours sur votre radio chrétienne. Merci et bonne continuation à l'écoute de vos programmes. À bientôt.